Frigidaire, revue italienne. Il y a eu quand même d'autres choses qui ont préparé Frigidaire, deux revues essentiellement, une qui s'appelait Cannibale, qui va durer de 77 à 79, je pense une quinzaine de numéros, qui était plus bricolé, on va dire, au niveau de sa réalisation, etc. Il y a eu également une revue qui s'appelait Il Male, qui à partir de 80 va faire amener là, toute une série d'auteurs qu'on va retrouver aussi dans Frigidaire, mais qui était une revue résolument satirique, et elle va être dirigée par un certain Vincenzo Sparanga, qui en fait était connu aussi pour avoir fait toute une série de faux numéros de toute une série de revues célèbres, comme la Pravda par exemple. Il y a des faux numéros de la Stampa, des faux numéros du Corriere della Sera ou de la Gazzetta dello Sport. Enfin, tout ça dans une volonté satirique et aussi dans une volonté d'attaquer de front toutes les formes d'oppression de l'individu et la société italienne telle qu'elle fonctionne à l'époque. Là aussi, ça vaut la peine de refaire un petite mise en contexte, parce que l'Italie de la fin des années 70 connaît une histoire extrêmement troublée, qui est marquée par des attentats notamment d'extrême gauche, avec les fameuses brigades rouges, mais il y a aussi pas mal d'attentats d'extrême droite, la mafia qui est évidemment omniprésente et aura parfois des collusions très douteuses avec le pouvoir, et puis ce qu'on appellera la stratégie de la tension, c'est-à-dire que très clairement, et ça c'est historiquement prouvé, les services secrets italiens et des agents américains aussi vont provoquer une tension dans ce pays, parce que c'est un des rares pays d'Europe occidentale qui a un parti communiste très fort, et dans l'esprit de l'OTAN et des Américains, il est évidemment hors de question que ces communistes arrivent au pouvoir, et donc il est bien clair que les groupes d'extrême gauche ont notamment été manipulés. Enfin, il y a aussi la fameuse loge P2 dont on a surtout parlé dans les années 90, dont faisait partie toute une série d'individus très puissants, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans la justice, et même au sein de l'Église, qui visaient à étendre leur pouvoir et de réfréner tous les mouvements contestataires qui étaient nés autour de mai 68. On a souvent dit qu'en Italie, mai 68 avait duré jusque dans toutes les années 70. Donc tout ça nous amène un petit peu ce contexte-là. Et donc quand Frigidaire apparaît en 80, c'est un petit peu la fin de tout ça. On se réveille un petit peu avec la gueule de bois, dans une espèce de nihilisme qui va profondément marquer ces revues. On sent une époque finalement assez désespérée, qui est marquée aussi par un certain cynisme, par l'expression d'un certain vide, de l'échec de certains modèles, chose qu'on trouvait aussi par exemple dans Métal Hurlant, à partir des années 77-78, par là. Globalement, Frigidaire est une revue qui mêle à la fois bande dessinée et aussi beaucoup de reportages assez violents dans leur conception. On va souvent traîner soit chez des travailleurs clandestins, des reportages sur des membres de la mafia, puis aussi suivre des tournées de groupes de rock, ce genre de choses. Donc vraiment dans cette tradition du yellow journalisme de Hunter Thompson. Le sommaire est international. On y trouve notamment Shelton ou Crumb, par exemple, qu'on va retrouver là-dedans, Munoz et Sampaio, des choses comme ça. Quelques grandes figures qu'on trouve là-bas. Il y a un personnage important qui va aussi s'occuper des maquettes, qui est Stefano Tamburini, qui était aussi un des responsables éditoriaux de la revue. Maquette assez proche d'ailleurs de ce qu'on trouvait à l'époque, par exemple toutes les maquettes des pochettes du label Factory, Joy Division, etc., avec Peter Saville, ce fameux graphiste. Je sais pas s'il y a une influence, ou j'ai plutôt l'impression, parce qu'on est vraiment à la même époque finalement, d'un certain état d'esprit commun. Tamburini s'occupe beaucoup de ça, c'est un scénariste, et sa création la plus célèbre qu'il dessine au départ est le fameux Ranxerox, qui est ce personnage de robot au pénis absolument monstrueux, créé à partir d'une photocopieuse de marque Ranxerox, qui vaudra d'ailleurs au créateur des problèmes avec les responsables de la marque, d'autant que le contenu, comme on l'a bien compris, n'est pas innocent. On se trouve effectivement là dans quelque chose qui est une forme de nihilisme punk caractérisé, hein, de cette espèce de science-fiction où plus rien n'a de sens, marqué aussi par la science-fiction de quelqu'un comme James Ballard par exemple. Tamburini va le dessiner au début. C'était pas encore dans Frigidaire. Un autre auteur, Pazienza, je vais revenir sur lui dans quelques instants, va dessiner aussi. Et puis celui qui va donner sa forme la plus connue, qui est Tanino Liberator. Au niveau du contenu, c'est évidemment, on retrouve une forme de nihilisme punk. Par contre, le dessin est très très travaillé. On a souvent comparé Liberator à Michel-Ange. On retrouve effectivement cette espèce d'exaltation des corps, mais en même temps des corps très très musculeux comme ça. Il utilise aussi des produits de maquillage pour rehausser, pour donner une espèce de coloration très flash, mais un peu passée. assez particulière qui sera véritablement une signature picturale de l'auteur. Voilà, ça, ça va vraiment être le gros succès de la revue, qui sera à la fois un beau succès commercial et un succès de scandale par la même occasion. Les deux choses font souvent bon ménage. Alors, Pazienza, que j'évoquais tout à l'heure, est vraiment une des grandes figures de cette revue. Il fait partie lui aussi de l'équipe éditoriale. Personnage dont je m'étonne d'ailleurs qu'il soit mais complètement inconnu dans les territoires francophones. Il n'y a pratiquement rien de ce qu'il a publié qui a été traduit en français ni dans d'autres langues. Quelques petits machins dans l'écho des savanes, mais c'est vraiment très très limité. Alors je ne me l'explique pas tout à fait. J'ai l'impression vraiment s'il y a peut-être un auteur de ces 30-40 dernières années où là il y a vraiment un manque par rapport à ce qu'on peut trouver, même en cherchant dans les rééditions, enfin en termes de traduction, c'est vraiment Pazienza. Mon copain italien me disait c'est peut-être lié aussi au fait que c'est un auteur qui traite beaucoup d'une réalité qui est proprement italienne, y compris dans le langage. Du point de vue graphique, on peut faire des liens qui sont assez évidents, par exemple, à quelqu'un comme Moebius. C'est clair que le garage hermétique l'a profondément marqué. Il y a aussi une déconstruction de la narration qu'on retrouve là. Et puis, de nouveau, c'est assez typique de l'époque. Il y a un effet de collage, c'est Pazienza, puisqu'on trouve des personnages très grotesques qui ressemblent à du Shelton ou même à du Walt Disney. Il y a des choses qui ressemblent parfois à du Manara, enfin il y a quelque chose de très très curieux là-dedans, puis des choses complètement photoréalistes aussi. Le personnage qui apparaît dans Frigidaire, le personnage de Zanardi, qui est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, et Pazienza le dit lui-même, ce qui caractérise ce personnage c'est sa vacuité, ce personnage est vide, il n'a rien dans la tête. C'est un peu à la même époque qu'il y a le fameux Blank Generation de Richard L. and the Voidoid. C'est un morceau punk américain qui avait été souvent considéré comme socialement représentatif de ce qu'était le vide de cette génération du punk et de la new wave, des derniers feux de 68 qui sont éteints de cette période où, après avoir beaucoup espéré, on ne sait plus trop, le conformisme social a repris ses droits. C'est un petit peu aussi quelque chose qui caractérise tout le mouvement punk et qui est véritablement incarné dans une revue comme Frigidaire. Pazienza était aussi un dessinateur de presse assez remarquable, qui n'a pas du tout gâté les politiciens italiens de l'époque, et puis qui va avoir une destinée tragique, qui est d'ailleurs évoquée dans son tout dernier album, qui s'appelait L'ultimo giorno di Pompeo, donc les derniers jours de Pompéi, qui raconte l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée, héroïnomane. C'est pas à proprement parler à quelque chose d'autobiographique, mais le récit se termine par la mort du dessinateur, et là, Pazienza a préfiguré ce qui était son propre destin, puisque en 88, il décède il y a une trentaine d'années d'une overdose d'héroïne, ce qui sera le cas de Tamburini aussi. Donc de nouveau, comme on le trouvait dans Métal Hurlant, et j'ai l'impression qu'ici c'était peut-être encore bien pire, les drogues ont eu une importance assez considérable dans cette revue, avec tout ce que ça a pu gérer comme euphorie, mais tout ce que ça a pu avoir évidemment de destructeur. Et alors il y a aussi Massimo Mattioli, qui fait partie de l'équipe rédactionnelle, qu'on connaît un peu ici, parce qu'il publiait M. le Magicien dans Pif Gadget, qui était une création évidemment pour enfants, très minimaliste, qui a été réédité par l'association, donc qui était d'une inventivité assez exceptionnelle. Et là, l'époque a changé avec les années 70, donc lui aussi va aborder d'autres sujets, va aborder des thématiques dites adultes qui étaient difficilement envisageables dans ses bandes dessinées pour enfants, et c'est peu dire qu'on va avoir une espèce de renversement où on retrouve des références notamment à Disney, à Anna Barbera, à Tex Avery, etc. C'est vrai que c'est des bandes dessinées qui sont construites comme des dessins animés avec des personnages, des animaux anthropomorphes, quelque chose mené tambour battant, une espèce de mouvement exacerbé, mais dans lequel on injecte des thématiques qui viennent du cinéma gore ou de la pornographie. Donc ça forme de nouveau une espèce de carnaval complètement délirant et complètement jouissif. Voilà. Jean-Philippe Martin disait que c'était une sorte de carnaval postmoderne. Et c'est vrai que c'est un peu une composante de tous ces récits-là, c'est que c'est des récits dont on a peut-être l'impression, a priori, qu'ils ne nous racontent rien. On n'est plus tout à fait dans une esthétique de la rupture comme on l'était dans les années 60. On va rechercher des modèles anciens, comme le fait Mattioli, en convoquant Walt Disney ou Tex Avery ou Anna Barbera. On reprend une esthétique qui est immédiatement familière pour le lecteur, et puis évidemment le contenu est complètement différent, donc on joue sur cet effet de rupture, on a l'impression d'être en terre inconnue, et évidemment ce qu'on nous raconte est plutôt une sorte d'envers du miroir. Voilà. Mais bon, c'est une revue dont on a souvent dit qu'elle s'arrêtait peut-être véritablement, enfin elle existe toujours, mais peut-être que sa grande période s'arrête avec la disparition de ses grandes figures, hein, donc Tamburini et Pazienza, et c'est sûr que la revue va un peu évoluer, un petit peu comme le fera l'Écho des Savanes aussi, et donc cette espèce de pornographie qui est affichée là et qui était quelque chose de transgressif à un moment donné, vire dans une forme d'érotisme racoleur qui est assez comparable à ce qu'on a vu, pas que ce soit Métal Hurlant ou même Charlie bimensuel à la fin, où les codes et savanes, ils ont tous connu un petit peu cette destinée-là.